Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être encore à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs de cette émission. Cette semaine, il y a encore de nombreux événements sur lesquels revenir et à vous annoncer dans des genres bien différents, puisque l'actualité est aussi prolifique que variée ces temps-ci. Nous avons la chance de vivre dans une métropole et une région où l'offre musicale reste intense presque tout au long de l'année. Pour la commenter, j'ai une autre chance, celle d'être entouré de chroniqueurs très au fait de l'actualité et connaisseurs. Ce que je reçois aujourd'hui s'appelle Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Ils entourent l'invité d'honneur de ce numéro, David Minetti, clarinettiste solo de l'Orchestre National du Capitole. Il s'apprête à diriger le concert que donne l'ensemble des cuivres de notre cher Orchestre Symphonique Toulousain ce samedi 2 février à 18h à la Halle au Grain. Le programme est intitulé « Les cuivres font leur cinéma », ce qui va donner lieu à de nombreuses découvertes. Nous allons les évoquer avec David Minetti en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'actualité récente avec notre rubrique « Retour arrière ».
Mélomanie. Retour arrière.
Et l'actualité récente, c'est une production dont les premières représentations ont eu lieu et qui sont toujours en cours. Lucrezia Borgia, l'opéra de Donizetti, est à l'affiche du Théâtre du Capitole. Il reste encore une représentation ce dimanche 3 février à 15h pour le découvrir. Dans cette version où la soprano française Annick Massis tient le rôle-titre, parmi nous dans ce studio, seule Anne-Marie Chouchan y a assisté jusqu'alors. C'est donc à elle que je vais maintenant passer la parole, et pas seulement par pure galanterie, parce que moi je suis très impatient de connaître son avis. Alors Anne-Marie, qu'avez-vous pensé de cette production et de la performance d'Annick Massis pour ce qui était une prise de rôle pour elle, sa toute première dans Lucrezia Borgia?
Au Théâtre du Capitole, c'était également une toute première. Cet opéra de Donizetti n'avait jamais été représenté. On le comprend aussi parce que c'est un opéra qui implique surtout des chanteurs qui ont la technique du bel canto, parce que l'intrigue basée sur la vie tumultueuse de Lucrèce Borgia, je dirais en français, parce que prononcer Lucrezia Borgia, c'est peut-être...
D'autant plus quand on a un invité italien.
Voilà. Et d'autant plus aussi que c'est tiré... L'opéra est tiré d'une pièce de Victor Hugo, qui a pas mal noirci le personnage. Chez Victor Hugo, il est assez sombre. On insiste sur ses mauvais côtés, puisqu'elle était, paraît-il, une empoisonneuse. Enfin, c'est un petit peu aussi romancé tout ça. Bon, mais là, elle est en même temps une mère. Et c'est là que Donizetti base un petit peu toute la trame dramatique de cet opéra. C'est-à-dire que Lucrèce Borgia rencontre un peu par hasard un jeune homme qui s'avérera être son fils. Lui ne le sait pas, elle ne le sait pas encore. Enfin, et tout le long, en fait, ça sera cette histoire de cette femme terrible. Finalement, ils vont se reconnaître avec son fils et voilà, ça sera le moment dramatique, touchant. Donc, il faut que l'interprète de Lucrèce soit à la fois très dramatique, qu'elle ait une présence scénique et qu'aussi, elle a des choses redoutables à chanter, puisque seuls des interprètes assez rares d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne joue pas tellement souvent, peuvent aborder ce rôle. Et Annick Massis l'aborde. Et je crois qu'elle en livre une belle interprétation, très dramatique. Elle maîtrise l'œuvre vocalement. Je crois qu'elle est, elle est vraiment le point très fort de cette distribution, qui par ailleurs révèle divers chanteurs, de bons chanteurs, peut-être pas des gens dont on se souviendra longtemps, je n'en sais rien, parce qu'ils étaient inconnus à Toulouse. Et la production, qui est mise en scène par Emilio Saggi, est une production assez classique, enfin classique et moderne, c'est-à-dire avec des décors très dépouillés, pas de reconstitution historique, quelque chose qui laisse l'histoire se dérouler sous la baguette du chef d'orchestre italien, qui est aussi italien, Giacomo Sagripanti, qui a déjà dirigé l'Orchestre du Capitole, qui dirige avec un sens du drame et aussi, surtout, de laisser aussi l'intrigue se dérouler, puisque ce répertoire a comme principal intérêt d'être surtout un répertoire qui mise sur les voix. Il y a le drame aussi et qui donc est une forme d'opéra. Peut-être pourrait-on reprocher à cette production de peut-être pas avoir que des voix qui soient totalement belcantistes, parce que c'est un répertoire qui souvent a été prétexte à briller sur le plan du chant pur. Mais là, ils sont à la fois soient à la hauteur de leur rôle, mais aussi dramatiquement tous très crédibles.
La mise en scène, les costumes, les décors, qu'est-ce que vous en avez pensé?
La mise en scène, la production, donc, ce sont des panneaux qui glissent, qui sont très abstraits, qui suggèrent des scènes différentes. Les costumes, parfois, évoquent une époque. Celui de Lucrèce, à la fin, elle termine dans une très belle robe rouge qui lui va très bien. Les costumes sont assez évocateurs, mais assez sobres dans l'ensemble. Voilà. Ce n'est pas une production qui, historiquement, cherche à restituer une époque.
Le public, comment a-t-il réagi à ce qu'il a vu et aux performances des chanteurs ?
Le soir de la première, apparemment, les gens étaient très contents puisqu'ils ont réservé un triomphe à Enigma 6. Il y a eu, semble-t-il, quelques petites réactions sur la mise en scène, semble-t-il, mais pas très fortes parce que c'était peut-être pas assez classique pour une partie du public. Mais l'accueil le soir de la première était, disons, plutôt très bon. Je ne sais pas aux autres représentations aussi. Il est vrai que, comme nous n'avons jamais vu cet opéra à Toulouse, seuls ceux qui voyagent pour aller à l'opéra...
Oui, ont des références, vous voulez dire.
Ont des références, on n'a pas de références. Ou alors par le disque, mais il en existe des enregistrements qui sont quand même assez anciens, un micro-sillon. Donc les gens découvraient une œuvre, comme ils vont à l'opéra pour écouter une œuvre.
Oui, c'est une œuvre qui a fait briller de grandes voix, notamment celle de Montserrat Caballé.
Qu'on a écouté il y a deux semaines lorsqu'on avait annoncé présenter Lucrezia Borgia.
Exactement. C'était à deviner d'ailleurs le petit extrait que nous présentait Eric. Et puis John Sutherland l'a beaucoup chanté aussi. Oui, donc c'était vraiment de très grandes voix du bel canto qui ont permis à cet opéra de perdurer. Mais il est vrai qu'à Toulouse, donc on
ça
on
manquait
le
quand même au répertoire. Ça manquait au répertoire du Théâtre du Capitole.
Ah oui, tout à fait.
Parce que c'est une grande œuvre. Hein.
Je ne pense pas qu'Enigma 6 n'ait jamais totalement eu la vocalité, c'est vrai, d'une Sutherland ou d'une Caballé, mais en même temps, elle s'implique totalement dans le rôle, elle fait les notes, elle fait ce qu'il faut, elle a la virtuosité qu'il faut quand il le faut.
Elle a la présence.
Elle a la présence en même temps, voilà. Ouais. Mais à une époque aussi, c'était matière. Je pense que Caballé, qui n'était pas réputé pour son implication dramatique, mais qui était une voix avec des choses infinies, souvent. Ces fameux pianississimi, elle, c'était la voix. Donc là, on a un ensemble de choses, et Enigma 6, je pense, en sort très bien.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter un extrait de la production de Lucrezia Borgia. Est-ce que je prononce bien, David ?
C'est Lucrezia Borgia.
Vous avez vu comme je ne prononçais pas bien. Il n'osait pas me le dire, il est gentil. Donc on va en entendre un extrait de cette production, celle qu'on peut voir actuellement au Théâtre du Capitole. Il s'agit d'un duo entre Enigma 6, justement, et la basse allemande Andreas Bauer Canabas, qui interprète le rôle d'Alfonso d'Este.
No!
extrait de Lucrezia Borgia, interprété par Annick Macis et Andreas Bauer Canabas, les mêmes que vous pouvez découvrir encore dans les rôles de Lucrezia et d'Alfonso d'Este ce dimanche 3 février à 15h au Théâtre du Capitole. Il reste encore quelques places, mais il faut vite réserver si vous ne voulez pas rater la dernière de cette belle production. Anne-Marie, vous vouliez peut-être dire un mot justement sur Andreas Bauer Canabas, qui apparemment vous a fait très bonne impression.
Oui, il fait partie de ceux que j'ai cités dans la production, là, dans l'article que j'ai fait dans la Dépêche du Midi. C'est une belle basse, oui, qui lui vraiment, il se révèle à nous, puisque moi je ne l'avais jamais entendu. Je pense qu'il mérite qu'on le cite.
Eh bien, c'est une raison de plus pour aller à la dernière de ce bel opéra au Théâtre du Capitole, donc ce dimanche 3 février à 15h. Nous filons maintenant à la Halle aux Grains, où a lieu lundi le concert que le pianiste russe Arkady Volodos donnait dans le cadre de la saison des grands interprète, et un grand, même un très grand interprète. Nous en avons entendu un tous les deux lundi soir lors de ce long programme où Arkady Volodos a joué successivement du Schubert, du Rachmaninov et du Scriabine. Quand je dis tous les deux, c'est Serge Chosy et moi-même. Alors, est-ce que vous serez d'accord avec moi, Serge, pour dire qu'Arkady Volodos joue ses œuvres avec une manière bien à lui, mais il y a comme une espèce d'évidence dans l'interprétation qu'il en donne?
Ah oui, tout à fait. Il convainc immédiatement. Il faut dire, bon, que il était là, j'allais dire en remplacement, mais
serait un peu... qui s'appelle Arkady Volodos, c'est pas mal.
Oui, déjà, mais il était substitué à celui qui devait venir, qui était rien moins que Murray Peraya, qui est quand même l'un des grands pianistes
du 20e. 40 ou 50 dernières années, oui.
Oui, absolument. Oui. Donc, vraiment, là, on n'a rien perdu. C'était vraiment, non pas une révélation, puisqu'il est déjà venu plusieurs fois à Toulouse.
Oui,
dans le cadre de Piano Jacobin, il y a deux ans, je crois, il était déjà venu dans le cadre de grands interprètes aussi. Et donc, bon, c'est un des grands représentants de ce qu'on appelle l'école russe du piano, puisqu'il est né à Saint-Pétersbourg. Mais il a des liens avec la France, puisqu'il, pendant un an, il a fait des études au conservatoire de Paris avec Jacques Rouvier,
un
grand pianiste français. Donc,
et grand pédagogue.
Grand pédagogue. Donc, il a un certain passé, disons, une formation qui vraiment lui a donné un style très personnel. Il faut dire, hein, c'est très personnel. Dès qu'il commence à jouer, il a commencé par jouer la première sonate de Schubert, qui est de loin pas la plus jouée, la toute première,
pas la plus facile.
Et moi, ce qui m'a frappé immédiatement, c'est l'extrême clarté du toucher. On entend absolument tout, tout est transparent, toutes les lignes mélodiques sont distinctes, et il y a alors un soin extraordinaire de la demi-teinte. La délicatesse du toucher dans Schubert, moi c'est indispensable, effectivement, mais là vraiment avec des pianissimi, mais à la limite de l'audible. Hein.
On parlait des pianissimi de Montserrat Caballé.
Là, on a eu la même chose.
Exceptionnelle.
Oui. Ah, tout à fait incroyable. Et en même temps, le son qui émane de son piano, il commence en relief. On entend vraiment tous les détails et la grande ligne est respectée. Hein. Alors, il y a une chose qui m'a frappé, c'est le poids qu'il donne au silence. Et Dieu sait si chez Schubert, les silences sont aussi importants que les notes. Hein. Donc, vraiment magnifique. Alors, il y a eu donc la première sonate de Schubert, puis ensuite, les six moments musicaux Deutsch 780. Bon, une œuvre, par contre, de la fin du grand Schubert. Ouais. Qui sont des merveilles, hein, si pépites, hein, et qu'il a joué comme s'il s'agissait de confidences. Donc l'une après l'autre, elles se suivaient. Alors, en même temps, il a bien caractérisé chacun de ces moments musicaux, mais il a joué ça comme s'il s'agissait d'une sonate à six mouvements, c'est-à-dire tout s'enchaîner de manière très logique, très belle. Non, vraiment...
C'est pour ça que j'ai employé le terme d'évidence le concernant.
Ah oui, oui.
Une espèce d'évidence dans ce qu'il fait.
Oui. Alors là, c'était Schubert, donc on ne l'attendait pas vraiment dans Schubert, on l'attendait par contre tout à fait dans Rachmaninov et Scriabine, ça c'est son ADN, hein, ses racines russes sont là. Et bien c'est pareil, hein, les six pièces brèves qu'il a jouées de Rachmaninov, bon, ben, c'est une sorte de portrait du compositeur, hein, qui était réputé pour être un virtuose du clavier, hein. Il existe des tas d'enregistrements de Rachmaninov lui-même. C'était un grand virtuose, mais pas seulement, c'était un grand musicien. Et là, ce qui m'a frappé, c'est la fluidité avec laquelle Volodos a interprété ses pièces, avec là aussi une unité stylistique à la fois stylistique et expressive de l'ensemble. Donc vraiment, il y a eu à la fois nostalgie et ardeur. Et puis il a joué aussi une de ses propres transcriptions de la romance opus 21 numéro 7. Je ne me hasarderai pas à citer le titre, si Eric veut le faire.
Non, déjà l'italien, je me fais reprendre, alors le russe...
Mais il n'y a personne ici pour vous reprendre.
Oui, mais il y a peut-être qui écoute.
Donc, très très beau. La mazurka qui ouvrait la séquence Scriabine est... Bon, inspiré de Chopin, évidemment, hein, l'évidence, et Scriabine est très lié à Chopin, mais il va beaucoup plus loin que Chopin sur le plan de l'harmonie, des modulations, enfin, Scriabine, c'est impressionnant. Hein, et...
Alors, c'est un compositeur qui ne touche pas tout le monde, Scriabine, qui divise pas mal, souvent, ou on adore, ou alors on n'adhère pas.
Bah, je fais partie de la première catégorie, oui, absolument, j'adore. Et notamment, il a écrit quand même deux pièces symphoniques. David Minetti peut nous dire, il a dû les jouer déjà, le poème de l'extase et le poème du feu, qui sont des merveilles absolues, quoi. Enfin, c'est... D'ailleurs, pour signaler un peu le rôle que joue la couleur chez Scriabine, ce qui est très important dans sa musique, eh bien, il avait imaginé un dispositif lumineux pour accompagner ses œuvres, avec un clavier pour illuminer la salle dans laquelle on jouait, avec des couleurs particulières qu'il indiquait d'ailleurs sur la partition. C'est quand même incroyable. Non, c'est un compositeur formidable. Et donc, Volodos a fait une espèce de suite avec ses œuvres, donc avec notamment des œuvres avec des titres, alors c'est tout à fait Scriabine, ça, Caresse dansée, enfin, oui. c'est incroyable comme titre. Énigme, on le trouve ailleurs. Et puis il y avait deux danses de l'opus 73, absolument magnifiques, l'une s'appelle Flamme sombre et l'autre Guirlande. Et enfin, il a terminé à la fois, non pas le concert, mais le programme, avec peut-être l'œuvre pour piano la plus célèbre de Scriabine, qui est Vers la flamme, qui est une œuvre avec un crescendo, un peu le genre de crescendo qu'il a mis dans ses pièces symphoniques, hein, où on ne sait plus jusqu'où ça va aller. C'était tout à fait exaltant. Donc, vraiment, un moment magnifique avec Volodos. Et puis, oui. Ce n'était pas fini.
C'est loin de là, même. D'être fini.
Il y avait comme une troisième partie, puisque Arkady Volodos, à l'instar de notre grand pianiste russe, qui est Grigory Sokolov...
Lui fait souvent 6 ou 7 rappels.
Oui.
Volodos, il était un peu petit bras, il n'en a fait que 5.
Il n'en a fait que 5, oui, c'était un peu court. Mais on aurait bien écouté quelques bis de plus. Hein. Alors là aussi, il a balayé un répertoire.
En plus, c'était très varié ce qu'il a donné.
Très varié, absolument. Ça a commencé par un menuet de Schubert. Et puis alors, une pièce complètement inattendue de Federico Mompou, compositeur catalan, une pièce qui s'appelle « Les jeunes filles au jardin ». Incroyable.
Et à propos de Mompou, il faut savoir que c'est un des compositeurs que Volodos préfère jouer.
Absolument. Il a fait des programmes entiers Mompou, hein, exactement. Puis il a joué du Brahms avec le fameux intermezzo numéro 6 de l'opus 118, les toutes dernières œuvres de Johannes Brahms. Et puis on est revenu à Scriabine avec un autre prélude. Bon, il fallait bien. Et puis il a terminé, alors, un retour vers l'antique, on peut dire, avec une Sicilienne de Vivaldi, Bach. Donc, c'est quand même ahurissant.
Un petit voyage en Europe.
Ah oui, tout un voyage dans toute l'histoire de la musique.
Au centre, voilà.
Mais il faut dire qu'il était vraiment sollicité par le public, qui était enthousiaste à un point. Il a fini par une...
Debout, applaudissement debout.
C'est rare, hein, c'est rare. C'est rare, la halograin debout, ouais. c'est assez rare. Et donc là, il a fallu bien les 5 bis pour que... l'audience, le public se calme un peu donc, et accepte de le laisser partir.
Bah, à chaque fois que le public en redemandait, il revenait.
Ah oui.
Il très... jusqu'au moment où tout le monde, ça a fini par se dire, bon, maintenant il faut peut-être y aller quand même.
Il faut quand même qu'il se repose.
C'est un lundi soir. Un lundi soir en plus. Non, moi ce qui m'a frappé, c'est que je trouve qu'il exploite vraiment toutes les possibilités du piano qui sont grandes.
Absolument.
Par moment, on avait presque l'impression d'entendre un orchestre. Époustouflant dans la densité. Il passait de la densité à des notes légères comme des plumes. Mm-hmm. Très, très impressionnant.
Grand monsieur.
Là, c'est le grand art. C'est vraiment le grand art du piano.
Absolument.
Alors, il y a vraiment l'embarras du choix, comme vous avez pu le constater en écoutant Serge Chosy, pour vous proposer de réécouter Arkady Volodos interpréter une des très nombreuses œuvres qu'il a jouées lundi à l'Halograin. Nous parlions des 5 bis qu'il a donnés, et parmi eux, il y avait donc cette pièce de Federico Mompou, un compositeur qu'Arkady Volodos, je le redis, affectionne tout particulièrement. On écoute sa très jolie version de « Jeunes filles au jardin ». Thank you. magnifique interprétation des jeunes filles au jardin de Frederico Mompou par Arkady Volodos, ce merveilleux pianiste qu'on espère revoir très vite à Toulouse. Le prochain concert de la saison des grands interprètes est programmé lundi 18 février à Saint-Pierre-des-Cuisines et c'est le duo formé par le pianiste Thomas Enko et la percussionniste Vassilena Serafimova qui va s'y produire lors d'une soirée qui commencera à 20h. Nous refermons le premier volet de cette émission sur ces entrefaites et nous nous retrouvons dans une minute après une petite pause avec Anne-Marie et Serge ainsi qu'avec notre invité d'honneur, le clarinettiste David Minetti.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, David Minetti, clarinettiste solo de l'Orchestre National du Capitole.
Mélomanie, l'agenda.
Et dans l'agenda des jours à venir, dès ce samedi 2 février, il y a justement un concert qui intéresse au plus haut point David Minetti, puisque c'est lui qui va le diriger. Ce concert va être donné par l'ensemble de cuivres de l'Orchestre National du Capitole, et il a été intitulé « Les cuivres font leur cinéma ». Nous allons regarder ce qu'il y a dans ce programme tout à l'heure, mais avant, je vais tout de même vous poser une question plus personnelle. Je vais rappeler que vous êtes né à Turin, vous avez fait vos études musicales au conservatoire Giuseppe Verdi, vous êtes aussi passé par le conservatoire de Nice, la clarinette est votre instrument depuis toujours, vous avez rejoint l'Orchestre National du Capitole en 1996, vous en êtes donc aujourd'hui le clarinettiste solo, et puis avec tout ça, vous allez nous faire une direction d'orchestre. Alors expliquez-moi un peu, vous avez pris des cours de direction d'orchestre, ou c'est comme ça, ça vous est venu, tiens, j'ai envie de diriger mes camarades des pupitres de cuivre de l'orchestre.
Et disons que c'est entre les deux. J'ai jamais pris de cours de direction d'orchestre, donc je suis autodidacte, mais j'ai eu l'énorme chance, de par mon métier, de voir à l'œuvre des grands chefs d'orchestre, bon, notamment déjà nos chefs titulaires. Donc à l'époque, quand je suis arrivé à l'orchestre, c'était Michel Plasson. Maintenant, j'ai l'énorme chance de travailler avec Tougan Sokiev et puis tous les chefs invités. Ça a toujours été une passion de voir la capacité d'un chef d'orchestre, voilà, de jouer déjà d'un instrument, parce que c'est pas diriger, c'est de jouer d'un instrument qui est hyper riche, avec différents instruments, puis la capacité aussi d'être un petit peu manager, psychologue, etc. Donc toutes ces facettes-là de ce métier m'ont toujours fasciné, et puis là j'ai l'énorme chance de diriger ce concert, donc j'espère de mettre à profit tout ce que j'ai pu voir dans ces années de carrière.
Est-ce qu'il y a un aspect aussi de toute puissance à diriger un orchestre ? Est-ce qu'on ressent ça ? Ou alors c'est inconscient ?
Non, pas pour moi. Pas pour moi, parce que j'ai la chance de diriger un ensemble de cuivre et percussions, parce qu'on dit très souvent à l'ensemble de cuivre, mais il y a aussi d'autres
instruments. Toujours les percussions qui accompagnent en général les brass bands, bien sûr. Oui.
Donc pour moi, c'est avant tout des collègues, des amis. Donc non, j'ai pas ce sentiment. J'ai plutôt un sentiment de vouloir faire de la musique avec eux et de me faire plaisir avec eux.
Ce sera la première fois que vous dirigerez cet ensemble en concert, surtout dans une salle comme la Lohengrin, parce que c'est pas rien, c'est à la Lohengrin.
Voilà, c'est exactement ça, c'est pas rien, parce que c'est un concert qui est donné dans le cadre de la saison de l'Orchestre du Capitole. Donc c'est la première fois, effectivement, que je dirige un ensemble dans le cadre de la saison. Après, j'ai eu la chance de diriger à la Lohengrin un autre ensemble que je dirige toute l'année, là, par contre. C'est un orchestre d'harmonie, c'est l'Orchestre d'harmonie de Ken Fonsegrive, un groupe amateur. Et nous avons joué deux fois à la Lohengrin, une fois c'était pour Classisco.
Ah oui.
La deuxième fois, c'était pour une bonne cause, c'est pour l'Oncopole. En effet, à l'Oncopole, il y a une association qui s'occupe de faire de l'activité sportive aux malades de cancer. Et c'est la Camille, ça s'appelle. Et donc, nous avons donné un concert à la Lohengrin l'année dernière pour recruter des fonds et les aider à acheter des structures pour les enfants.
Autre corde à votre arc, vous enseignez aussi votre instrument à l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts de Toulouse. C'est important aussi pour vous de transmettre votre passion et de transmettre votre savoir, bien sûr.
Mais c'est fondamental, c'est... Je dirais à chaque âge, il y a des étapes. Moi, je commence à avoir un âge dans lequel on a envie de partager notre petit savoir, je dirais, nos connaissances, surtout dans le cadre de l'ISDAT. C'est une formation un peu particulière en France. C'est une formation pour les métiers d'orchestre. C'est fait en partenariat avec le Casio Capitole. Donc, les étudiants qui viennent à l'ISDAT, ils viennent tout particulièrement parce qu'il y a ce partenariat et parce qu'on les prépare à passer des concours d'orchestre. Donc c'est vrai qu'en étant musicien d'orchestre depuis maintenant 23 ans à peu près, je pense connaître relativement bien le répertoire et je pense pouvoir leur transmettre mes expériences et ma passion pour ce répertoire.
Alors je voudrais qu'on parle aussi de l'ensemble des vents, des instruments à vent de l'orchestre dont vous faites partie évidemment en tant que clarinettiste, parce qu'on en parle souvent dans cette émission, les vents en général, les cuivres en particulier. On trouve que depuis quelques années il y a vraiment un niveau exceptionnel et on le redit je crois à peu près à chaque concert.
C'est exact, je confirme. Puis il y a l'ensemble qu'on qualifie quelquefois de petite harmonie, les bois, c'est d'une qualité tout à fait exceptionnelle à Toulouse. Je ne le dis pas parce que David Minetti est là, mais c'est une vérité, c'est bien connu. Donc vraiment il y a au sein de cet orchestre du Capitole, un ensemble de pupitres des vents qui est tout à fait magnifique.
Alors justement, David Minetti, vous allez pouvoir dire tout le bien que vous pensez de vous-même et de vos camarades des vents de l'orchestre. Non, mais franchement...
De moi-même, je laisse aux autres éventuellement s'exprimer. Mais en tout cas, c'est vrai. C'est vrai que depuis quelques années, là, il y a eu, déjà avec la création du cinquième poste, dans des vents en général, puis les recrutements qui ont été faits dernièrement, le niveau est remarquable. Mais il y a surtout quelque chose que l'on retrouve et que moi je retrouve depuis mon arrivée à Toulouse, c'est une ambiance qui est exceptionnelle. C'est que on a tous envie de faire de la musique ensemble, on a tous envie de partager de bons moments. S'il y en a un qui est en difficulté, on essaie toujours de s'entraider. Et l'exemple type, c'est ce concert qui aura lieu samedi. Ce n'est jamais simple pour quelqu'un qui fait partie de l'orchestre passer de l'autre côté de la barrière.
Ah oui, ça veut bien le croire.
Être chef d'orchestre. Et ce n'est pas simple non plus pour les collègues qui jouent d'avoir un collègue qui devient
qui dirige momentanément
chef d'orchestre. Et je dois dire que nous avons fait ce matin la répétition générale et jusque-là, mes collègues ont été exceptionnels. On a envie de faire de la musique, c'est tout. Et après,
C'est l'amour de la musique qui vous lie tout, je suppose.
C'est vraiment un bon groupe et il y a vraiment une ambiance très sereine au sein de l'orchestre.
Et puis, il y a une caractéristique particulière, les musiciens, l'ensemble des musiciens de l'orchestre, c'est considérablement rajeuni. Oui. Enfin, l'âge moyen de l'orchestre, on a cessé de diminuer. Parce qu'il y a eu beaucoup de recrutements de jeunes musiciens de grande qualité, et vraiment, ça se ressent.
Oui, mais ça, de toute façon, c'est cyclique, je dirais, parce que maintenant, on a beaucoup de jeunes, et bien, ces jeunes-là, nous espérons les garder très, très longtemps. Et
qui deviendront à leur tour des anciens, qui accueilleront les nouveaux.
L'important pour moi, je mets toujours l'accent là-dessus, c'est que c'est l'envie, le respect et l'envie de faire de la musique.
Et la bienveillance, entre vous.
La bienveillance, c'est primordial.
Alors, l'ensemble de cuivres de l'Orchestre National du Capitole que vous allez diriger ce samedi, donc pour ce concert, les cuivres font leur cinéma, de qui est-il composé? Quels instruments on y trouve?
Alors, on y trouve toute la famille des cuivres de l'orchestre, c'est-à-dire trompette, cor, trombone, tuba. Tous les musiciens sont représentés, c'est-à-dire que vous allez avoir 5 trompettes, 5 trombones, etc. Il y a vraiment tous les pupitres sont au complet. Après, il y a les percussions, parce qu'il y a énormément de percussionnistes. Il y a 5 percussionnistes.
Oui.
Il y a une harpe avec notre harpe solo Gaël Touvenin. Et il y a un piano qui sera joué dans une pièce par Jean-Sébastien Borsariolo, qui lui est timbalier solo, mais qui joue très bien du piano.
Oui.
Et donc, dans une pièce, il passera au piano.
Eh bien, alors vous serez combien en tout, du coup?
21.
Est-ce que c'est la toute première fois que cet ensemble des cuivres de l'Orchestre National du Capitole se produit en concert? Vous, on sait que ce sera la première, mais est-ce que lui, c'est aussi la première fois?
Alors, dans le cadre de la saison de l'Orchestre du Capitole, oui, c'est la première fois. Après, avec une formation assez similaire, nous avions donné des concerts il y a environ 2 ans, un qui avait eu lieu à Boucau, à côté de Bayonne,
oui.
Et l'autre qui avait eu lieu à Toulouse, à l'hôpital, à l'école d'infirmières, pardon, de Purpan.
Donc ça sera une première à l'Allogramme, mais ce n'est pas une première en concert pour cet ensemble, peut-être pour certains des musiciens qui y appartiennent en revanche. Le programme que vous allez jouer ce samedi, c'est à 18h, je le rappelle, à l'Allogramme, a été intitulé « Les cuivres font leur cinéma ». On peut en déduire qu'il est constitué de musique de film. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? D'abord, est-ce qu'il n'y a que des musiques de film ou est-ce qu'on trouve d'autres types de pièces ?
Disons que c'est un petit jeu de mots. Les cuivres font leur cinéma, c'est les cuivres montrent toutes les facettes possibles de cet instrument. Donc, en quelque sorte, ils se mettent en scène, ils se mettent...
Oui, c'était difficile d'appeler ça les cuivres font les beaux.
Mais... voilà, mais on pourrait le dire comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des musiques de films. Il y aura le Seigneur des Anneaux, la musique du film. Il y a Pirates des Caraïbes. Après, à côté de ça, on a des compositeurs qui sont liés, en quelque sorte, à la musique de film. C'est John Williams, par exemple. On jouera les Fanfares Olympiques, qu'il a composé en 84.
Oui, c'était les Jeux de Los Angeles en 1984, effectivement.
Voilà, exactement. Après, on jouera à Londoner in New York, qui était le compositeur de la pièce, a également composé des pièces pour des
séries. Des séries. Alors, je crois qu'il a composé des musiques de films, mais surtout des musiques, des génériques de séries policières britanniques, notamment une qu'on regarde beaucoup en France, Inspecteur Barnaby. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs autour de la table.
Oui,
il y en aura
oui.
Certainement à la Allograin. Bon, voilà, entre autres, mais voilà. Il a composé beaucoup d'autres choses. Alors, il est toujours vivant, Jim Parker. Il a 84 ans. Mais c'est quelqu'un qui est encore en activité, qui continue à composer.
Voilà. Et après, on jouera également une pièce écrite pour cette formation, composée par Nicolas Châtenay. Et il y a également une pièce de Richard Strauss. Mais je vous laisse dire le titre parce que...
Oh là là, voilà, moi je prononce l'italien mal, maintenant je vais mal prononcer l'allemand. Alors la pièce, les germanophones, on éteint la radio. Feierliche Einzug der Ritter des Johanniter Ordens. Traduction, je ne sais pas, il faudra m'aider.
Il est question de l'ordre de Saint-Jean.
Oui, mais j'ai pas tout, là, j'ai tellement dans le désordre que je ne peux pas vous dire exactement ce que ça veut dire. Mais donc c'est un peu l'intrus, là, Richard Strauss, parce que c'est le seul qui n'est pas un compositeur de musique de film,
oui,
ou de musique pour ensemble de cuivre.
Mais ça permet aux cuivres de faire les beaux, vous disiez tout à l'heure.
Oui,
c'est ça.
De faire les beaux.
Voilà. Bon. C'est une pièce magnifique. C'est
bon, et puis on connaît le talent d'orchestrateur de Richard Strauss.
Oui,
et quand il compose pour les cuivres, dans les œuvres symphoniques, je pense à la symphonie alpestre, c'est spectaculaire. Hein, donc,
c'est une
très
pièce
bien.
Qui est extraordinaire. Donc.
Alors, on va écouter une première œuvre au programme de votre concert, Les cuivres font leur cinéma. On en a parlé il y a quelques instants. Il s'agit de la pièce du compositeur britannique Jim Parker, A Londoner in New York. Thank you. Londoner in New York, morceau du compositeur contemporain Jim Parker dans une version interprétée par le Philip Jones Brass. Pourquoi vous avez choisi cette œuvre de Jim Parker, Londoner in New York ? C'est parce que c'est très entraînant, sans doute, comme on a pu le constater ?
Non, c'est surtout parce que c'est une pièce qui est très descriptive. En effet, c'est un Londonien qui arrive à New York, d'ailleurs. C'est une pièce en 5 parties. Et une partie, c'est Grand Central, donc c'est la gare
de New York.
De New York. Donc c'est un Londonien qui arrive à New York et qui visite la ville et c'est ses impressions de la ville. Et donc comme nous sommes dans le cinéma,
musique d'image un peu, hein, voilà, enfin,
le public peut fermer les yeux et se voir à New York.
Dans votre programme, il y a un nom qui revient souvent et vous en avez parlé il y a quelques minutes en tant qu'arrangeur ou en tant que compositeur, c'est celui de Nicolas Chatenay. Alors moi je connais un Nicolas Chatenay qui est trompettiste solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris. Est-ce que c'est le même ?
Oui, je déduis qu'on connaît la même personne. C'est bien lui. C'est bien lui, c'est Nicolas Chatenay qui est super soliste à l'Opéra de Paris et qui a la passion de composer et d'arranger des morceaux. Il fait ça magnifiquement bien. Sa pièce s'intitule Le Storm. C'est une pièce qui est extraordinaire. Moi, j'adore, c'est vraiment absolument génial. Et puis ces arrangements, je dois souligner que quand on fait des pièces comme ça, il faut demander l'autorisation aux éditeurs, aux compositeurs, etc. Et Howard Shore, qui est le compositeur de la musique du Seigneur des Anneaux, a envoyé personnellement un mail à Nicolas Chatenay pour le féliciter pour son arrangement. Il a trouvé ça super. Donc il faut souligner sa qualité dans le travail.
Donc Nicolas Chatenay, il a arrangé 2 des œuvres que vous allez jouer. Alors là, ce sont vraiment des musiques de films pour le coup. Il y a Pirates des Caraïbes, compositeur Klaus Badelt. Et puis donc l'autre pièce de Howard Shore que vous venez de citer, The Lord of the Rings for Brass Orchestra, arrangement aussi de Nicolas Chatenay. On ne va pas les écouter, ces deux œuvres, mais ça ressemble à quoi lorsque c'est joué par des cuivres ?
Mais ça a la puissance, je souligne, c'est cuivre et percussion. Donc, oui. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment donné, il y a une espèce de bataille entre les percussions et notamment les trombones, tuba, euphonium. Et je dois dire que là, je ne sais pas qui c'est qui va gagner à la fin.
La bataille.
Les deux sont très, très costauds. Donc, c'est une musique qui est exceptionnelle parce que ça rend très bien. On a le côté violent de la musique quand il le faut. Et on a des côtés extrêmement doux avec la trompette piccolo, avec le bugle notamment. Il y a Thomas Pesquet qui joue du bugle. Et donc, cet instrument qui est extrêmement doux et extrêmement mystérieux.
Et alors, œuvre originale de Nicolas Chatenay, vous allez jouer Storm, Tempête. Alors on va l'écouter celle-là, mais vous l'avez choisie parce que vous vouliez jouer une œuvre de Nicolas Chatenay ou parce qu'elle évoquait quelque chose pour vous et elle semblait adaptée vraiment à votre formation ?
Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce concert a été fait entre amis. Donc c'est les collègues cuivres de l'orchestre qui avaient déjà joué cette pièce il y a quelques années qui m'ont dit, écoute, elle est extraordinaire, il faut absolument qu'on la joue parce que pareil que le Londoner in New York, c'est une pièce qui est extrêmement descriptive, donc on a le côté violent, on va dire, de la tempête, etc. Avec le calme, après on voit presque les nuages s'ouvrir, un petit rayon de soleil sortir. Donc c'est une pièce qui est extraordinaire et Nicolas, il a accepté d'en refaire une version pour nous parce qu'à l'origine, était écrite pour un effectif moins important. Et lui, il a accepté d'élargir la formation pour notre concert.
On va l'écouter, cette pièce, Storm, et je vois Serge Chosy qui a l'air très curieux. Pourquoi, Serge, vous êtes très curieux ? Ça vous intéresse, les tempêtes, les orages ?
Beaucoup, beaucoup.
Ouais, expliquez-nous pourquoi, parce que tout le monde ne sait peut-être pas parmi ceux qui nous écoutent.
Parce que mon métier de scientifique m'a amené à étudier les orages, les tempêtes, la foudre, les éclairs, etc. Donc, je me trouve tout à fait à l'aise là-dedans.
Eh bien, on va écouter, et après, vous nous donnerez votre avis, vous nous direz si vous ressentez bien l'atmosphère de l'orage en écoutant Storm de Nicolas Chatenay. Thank you. Storm, l'œuvre de Nicolas Châtenay au programme du concert Les Cuivres font leur cinéma que va diriger David Minetti ce samedi 26 janvier à 18h à la Halle au Grain. Alors Serge, qu'est-ce que vous en pensez? On est dans l'orage
tout à fait. Ah, tout à fait. Bah, écoutez, dans l'histoire de la musique, la quantité de pièces musicales...
Inspirées par l'orage.
Ben oui, inspirées par l'orage. C'est depuis Vivaldi dans l'été, la symphonie pastorale, la symphonie alpestre de Richard Strauss. On parlait de Richard Strauss tout à l'heure. Donc, les orages ont toujours passionné les musiciens à toutes les époques. Dans les opéras baroques, enfin, il y en a sans arrêt. Rossini,
Donc Nicolas Châtenay s'inscrit finalement dans une longue tradition.
Tradition de représentation de la nature violente en musique.
Comme il nous reste un peu de temps, je voudrais que l'on annonce aussi le concert suivant de l'Orchestre National du Capitole. Il a lieu vendredi 8 février à 20h et il va être dirigé par le grand chef et pianiste allemand Christian Zacharias. Le chœur du Capitole d'Alfonso Cayani, un autre italien à Toulouse, est aussi de la partie pour interpréter un très joli programme. Serge Chosy va se faire un plaisir de nous le présenter. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre vendredi prochain à la Halle au Grain, Serge?
Eh bien, d'abord, on va entendre un duo de grands compositeurs qui se sont bien connus, appréciés, et qui sont Brahms et Schumann. On sait que Schumann a beaucoup aidé Brahms à débuter, en quelque sorte. Hein. Donc, on entendra deux Brahms, deux œuvres rarissimes au concert, qui sont deux œuvres, deux sortes de cantates pour orchestre et chœur mixte. L'une s'appelle Nenni et l'autre Le Chant du Destin. On l'entend un petit peu plus, mais Nenni, je ne me souviens pas de l'avoir entendu à Toulouse. Hein.
Moi encore moins que vous.
Deux grandes pièces pour chœur et orchestre de Johannes Brahms. Alors ça, c'est vraiment d'un intérêt particulier. Et dirigé par un grand pianiste en l'occurrence, qui est donc notre ami Christian Zacharias, qui est déjà venu et qui vient assez souvent à Toulouse.
Oui, presque tous les ans. Ou avec l'orchestre.
Soit en soliste, soit comme chef, soit les deux, c'est ce qui sera le cas pour ce concert donc du 8 février. Et en deuxième partie, alors le chef reviendra au piano et dirigera en même temps l'orchestre dans l'introduction et allegro appassionate de Schumann, cette fois, donc qu'il dirigera depuis le clavier. Et puis il dirigera sa quatrième symphonie, alors qui porte le numéro 4, mais qui en fait est la deuxième qu'a composée Schumann, puisqu'il l'a revue après, mais il l'a composé immédiatement après la première. Donc c'est un beau programme, Brahms-Schumann, avec notamment deux pièces tout à fait rares en concert, les deux pièces avec chœur. Donc on est tout heureux de réentendre l'excellent chœur de Capitole sous la direction d'Alfonso Cayani.
Je vais poser la question à David Minetti, je crois que vous ne faites pas partie de l'orchestre pour ce concert, vous ne serez pas présent. En revanche, Zacharias, est-ce que vous avez l'occasion ou de le voir jouer ou d'être dirigé par lui?
Alors, j'ai eu l'occasion de l'entendre en concert, mais j'ai jamais eu la chance de le voir.
De jouer sous sa direction?
Oui. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du pianiste Zacharias? J'aime bien avoir l'avis des musiciens, moi.
Et pour moi, avant tout, c'est un énorme musicien. Donc, c'est surtout ça. J'ai du mal à cataloguer... Le pianiste, moi, c'est le musicien. C'est quelqu'un qui a une culture, qui a une approche de la musique qui est tout à fait complète. Donc c'est surtout ça qui me... C'est comme tout à l'heure, l'extrait qu'on a entendu. Pour moi, c'est pas du piano, c'est de la musique.
Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire.
D'ailleurs, un critique, je crois, l'a qualifié de penseur de la musique.
Oui,
et je crois que c'est tout à fait ça. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision et qu'il applique en utilisant comme instrument soit l'orchestre, soit le piano.
Mais, tout à fait.
Mais avant tout, il a une vision musicale.
Et la quatrième de Schumann, est-ce que vous avez eu l'occasion de la jouer?
Oui, bien entendu.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est des grands moments dans la carrière de musicien. Moi, j'adore Schumann, et tout particulièrement cette symphonie que je trouve extraordinaire.
C'est, tout à fait, c'est une très belle heure.
Très profonde, très... torturé aussi, mais c'est...
Qui ressemble au personnage
voilà,
du Schumann.
Voilà, ouais. C'est, mais c'est extraordinaire, c'est absolument magnifique.
Et puis ce qui est incroyable, elle a 4 mouvements, comme toute symphonie, mais qui sont tous enchaînés. Il n'y a pas du tout d'interruption, c'est comme un grand poème
oui,
symphonique.
C'est très fluide, oui. Ouais.
C'est vraiment, elle est impressionnante, cette symphonie.
Il faut savoir que des fois, même très souvent, je dirais, quand on fait le planning, parce que moi, j'ai la chance de partager mon poste de clarinette solo avec ma collègue Floriane Tardy, et bien, quand on se retrouve pour faire le planning, mais des fois il y a des pièces
vous
comme ça.
Vous jouez tous les deux.
Qu'on se bat un petit peu pour jouer. Non, c'est moi. Et bien cette fois-ci, c'est celle qui a gagné.
Bon, et bien donc Floriane Tardy aura le plaisir de jouer sous la direction de Christian Zacharias. Ça aussi, vous ne pourrez pas y goûter. Donc cette 4e symphonie de Robert Schumann. Alors je vais vous proposer qu'on écoute le pianiste, cette fois-ci, Zacharias. Il s'agit donc de l'introduction et Allegro Appassionato pour piano, et là, c'est une version où il est accompagné par l'orchestre de chambre de Lausanne. Un extrait d'introduction et allegro appassionato pour piano et orchestre de Robert Schumann, interprété ici par l'orchestre de chambre de Lausanne et Christian Zacharias au piano. Christian Zacharias sera encore au piano pour jouer cette même œuvre avec l'Orchestre National du Capitole lors du concert qu'il va diriger vendredi 8 février à 20h à la Lograin. Au programme également, il y aura la symphonie numéro 4 de Robert Schumann, ainsi que Neni et le chant du destin de Johannes Brahms. C'est la fin de ce numéro de Mélomanie, auquel je remercie mes camarades Anne-Marie Chouchan et Serge Chosy d'avoir participé en y apportant leurs précieux éclairages comme ils en ont l'habitude. Un grand merci aussi à David Minetti d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que David Minetti va diriger le concert que donne l'ensemble des cuivres de l'Orchestre National du Capitole ce samedi 26 janvier à 18h à la Lograin. Les cuivres font leur cinéma, c'est le titre du programme, et on y trouve beaucoup de belles musiques de films et d'autres pièces qui devraient ravir tous les amateurs du genre. L'Orchestre National du Capitole est de nouveau en concert vendredi 8 février, toujours à la Lograin, mais à 20h cette fois-ci. C'est le grand pianiste et chef allemand Christian Zacharias qui va donc le diriger pour un programme d'œuvres de Brahms et Schumann. Pour ces deux concerts, vous pouvez vous renseigner et réserver vos places sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Je rappelle aussi que la dernière représentation de Lucrezia Borgia, l'opéra de Gaetano Donizetti, a lieu ce dimanche 3 février à 15h au Théâtre du Capitole. Il reste encore des places que vous pouvez réserver sur le site www.theatreducapitole.fr. Autre concert que je recommande vivement, celui que donne mardi 5 février à 18h15 à l'auditorium du Musée des Abattoirs, Tom Grimaud, un jeune pianiste formé au Conservatoire de Toulouse. Il s'agit d'un concert dans le cadre de la Saison Bleue et Tom Grimaud va y interpréter un programme d'œuvres de Schubert, Liszt, Prokofiev et Ravel. Vous pouvez en découvrir le détail et faire vos réservations sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Je signale enfin que l'Orchestre de Chambre de Toulouse donne ses concerts du mois de février à l'Escale de Tournefeuille les mercredis 6 et jeudi 7, puis à Saint-Père des Cuisines les jeudis 14 et vendredi 15. Le guitariste José Sanchez et la danseuse Stéphanie Fuster sont aux côtés de la formation dirigée par Gilles Colliard pour ces concerts qui commencent tous à 20h30 avec un programme entièrement dédié au flamenco. Renseignements et réservations sur le site www.orchestredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir une nouvelle fois assuré la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore à tous d'être fidèles à notre écoute et passez une très bonne semaine musicale.